Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Kiran Gessel, Fanny Richer, Céline Leclerc, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Jean-Guilain Meige. La Bible ne dit pas quel âge avait Marie quand elle mit au monde son fils il y a quelque 2015 ans. Certainement moins de 30 ans, âge à partir duquel la fertilité d'une femme baisse, pour ne pas dire chute, fortement. Deux millénaires plus tard, cette réalité biologique n'a pas changé. À moins de bénéficier d'un petit miracle, il est fortement conseillé de penser à faire des enfants avant 30 ans. Sauf qu'avant cet âge, les jeunes femmes ont beaucoup de raisons de ne pas y songer. Un métier chronophage ou trop précaire, pas de futur père sous la main ou tout simplement pas encore envie de devenir mère. L'horloge biologique des femmes ne s'écoule plus au rythme de celui du reste de la société, alors qui doit s'adapter à qui ? En octobre dernier, les firmes américaines Apple et Facebook annonçaient qu'elles allaient financer à leurs jeunes salariés la congélation de leurs ovocytes. Cette technique, éprouvée depuis une vingtaine d'années, consiste à prélever quelques cellules reproductrices d'une femme jeune, qui sont ensuite congelées et stockées afin d'être réutilisées plus tard par cette même femme via une fécondation in vitro. Bref, d'avoir à 40 ans des enfants avec la même chance, ou presque, qu'une femme de 25 ans. Voilà que la grossesse différée serait donc le dernier outil au service des droits et de l'émancipation des femmes, à moins que ça ne le soit au bénéfice des DRH. En France, la congélation des ovocytes n'est permise que pour des raisons de santé, mais puisque les entreprises mettent le débat sur la table, n'est-il pas temps que les citoyens, voire le législateur, s'en saisissent à nouveau ? Maternité tardive, comment dégeler le débat ? C'est notre sujet du jour. Et trois invités pour en discuter ce soir. Laurence Brunet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, vous êtes chercheuse associée au Centre de Recherche Droit, Sciences et Techniques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et vous êtes notamment spécialiste du droit de la famille et de la bioéthique.
Tout à fait.
À vos côtés, Michel Tournaire, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes gynécologue obstétricien. Vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais vous avez été chef du service de la maternité de Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Vous êtes membre du Collège national des gynécologues français, le CNGOF, que vous avez d'ailleurs présidé de 2004 à 2008. Et vous êtes auteur de « Le bonheur d'être mère, la grossesse après 35 ans ». C'est chez Odile Jacob en 2005. Et notre troisième invitée, Hélène Périvier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste à l'OFCE. Vous travaillez notamment sur les questions des inégalités socio-économiques entre les hommes et les femmes. Et vous êtes co-responsable du programme de recherche Présage. Donc Présage, programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre. Vous êtes, vous, l'auteur de « Le deuxième âge de l'émancipation, la société, les femmes et l'emploi ». C'était à la République des idées, au Seuil, en 2007, c'est ça ?
C'est ça, avec Dominique Méda.
Voilà. Et nous sommes ce soir en partenariat avec le journal La Croix. Bonsoir Céline Hoyot.
Bonsoir.
Alors l'édition de demain, donc, qui sera datée du 26 décembre de votre journal, consacrera ses pages Opinion débat au thème de la maternité et éloge de la maternité. Je crois que ce sera le thème, en tout cas le titre de ces pages. Vous nous en dites un petit mot, qu'est-ce qu'on pourra trouver demain dans le journal La Croix ?
Oui, alors éloge au pluriel de la maternité. On fait intervenir plusieurs contributeurs, notamment la philosophe Laurence Aubrin, qui nous parlera de l'expérience singulière de la maternité et comment elle nous intime à repenser le rapport à l'autre. On aura aussi alors une contribution un peu particulière, c'est d'une petite sœur de la congrégation des maternités catholiques. Donc ces religieuses qui assistent les accouchements, notamment à la maternité Sainte-Félicité dans le 15e arrondissement à Paris. Et elle nous dira justement ce que représente la maternité à la fois pour les femmes qu'elle rencontre, mais également pour des femmes qui, comme elle, ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Et puis nous aurons également Stéphane Bataillon, qui est rédacteur en chef de Bayam, le l'univers web pour les 3-11 ans de Bayard et qui est poète, écrivain, jeune papa. Et donc, il nous donnera aussi son regard d'homme sur cette question. Et puis enfin, on aura un petit éclairage de l'historienne des femmes et de la maternité, Yvonne Knibiller.
Grande historienne des femmes. Michel Tournaire, vous avez beaucoup travaillé sur la question des grossesses tardives. Est-ce que faire ce choix professionnellement, c'était quelque part en soi aussi une sorte d'éloge à la maternité ?
Disons que cet intérêt pour les grossesses dites tardives m'est venu dans ma pratique quotidienne. Située au cœur de Paris, il y avait un peu plus que dans la moyenne française des femmes d'un certain âge qui avaient fait leur carrière et qui, assez tard, voulaient leur enfant. Et j'étais très frappé par l'attitude qu'elles avaient. Elles venaient, mettons que ce soit une femme de 41 ans, et elles semblaient bloquées, très inquiètes, et je leur demandais ce qui n'allait pas. Elle dit, mais je suis enceinte et j'ai 41 ans. Et ma réponse était de dire, réjouissez-vous. Et elles étaient très étonnées parce qu'elles avaient eu éventuellement des avis tout à fait hostiles dans leur entourage, voire éventuellement dans le corps médical. Et progressivement, à force de rassurer les femmes, je me suis dit, je vais peut-être en parler une bonne fois. Et j'avais parlé de ce sujet à Odile Jacob, qui m'avait donné son accord pour faire un livre sur ce sujet-là. Et en travaillant sur le sujet, on se rend compte qu'on a tendance à diaboliser ces grossesses, alors qu'elles se passent bien, moyennant tout de même quelques précautions, c'est vrai.
Alors c'est vrai que dans l'opinion publique, disons dans, généralement, la grossesse tardive est pas forcément prise comme une bonne nouvelle, mais on va voir justement dans le débat de ce soir que peut-être cela pourrait changer et que peut-être avoir une grossesse plus tard serait plus facteur de réjouissance ou pas. Alors, le Collège national des gynécologues et obstétriciens, donc vous avez fait partie, a pris clairement position, c'était en 2012, en faveur de l'autorisation de l'autoconservation des ovocytes, donc une position pour le moins bien tranchée. C'était en 2012, où en est le débat depuis, Laurence Brunet ?
Alors, le débat avait commencé en fait avant 2012, puisque la loi de bioéthique, qui s'intéresse à l'encadrement de la procréation médicale assistée, avait introduit une disposition qui est passée un peu inaperçue, mais qui est très importante, parce que justement, elle permettait à des femmes qui n'ont pas d'enfants de devenir donneuses, et on leur offrait en contrepartie la possibilité de conserver leurs ovocytes pour le cas où ils en auraient besoin plus tard. Donc cette idée de l'autoconservation a donc été introduite à ce moment-là et elle n'a pas été débattue. Et c'est justement parce qu'elle était corrélée dans la loi à l'idée qu'il fallait être donneuse pour pouvoir autoconserver pour soi-même que le Saint-Gov est intervenu en disant qu'il y avait une sorte de chantage qui était fait, qu'on ne pouvait pas autoconserver soi-même si ce n'est dans, lorsqu'on acceptait d'être donneuse. Donc c'était l'idée qu'une fois que la brèche était ouverte, que l'idée que cette possibilité existait pouvait être offerte aux femmes, on devait l'élargir. Voilà comment le débat a commencé. Et effectivement, depuis 2011, rien ne s'est passé. C'est-à-dire que cette possibilité qui a été offerte dans la loi de donner en contrepartie de conserver n'a toujours pas été mise en application. Et le décret qui est attendu pour que cette loi entre en application n'a pas été publié. Donc il y a blocage dès le départ.
Donc aujourd'hui, si moi je veux aller voir un médecin dire, j'aimerais mettre de côté mes ovocytes pour pouvoir enfanter plus tard, parce que là c'est pas le moment pour des raisons qui sont personnelles, que j'ai pas forcément à détailler, la seule manière que j'ai de le faire, c'est de faire un don d'ovocytes et à ce moment-là, on me permettra d'en congeler un petit peu pour moi. C'est ça, Michel Tournaire, aujourd'hui la situation ?
Oui, j'ai un peu envie de revenir en arrière sur cette méthode qui est une véritable révolution, mais qui est silencieuse en France. On en a parlé essentiellement à l'occasion des maisons américaines, Google et autres, qui ont proposé de prendre en charge cette méthode. Alors qu'est-ce que c'est que l'autoconservation ? Mais il y a quelque chose de technique dans tout ça, c'est qu'on savait très bien, depuis de nombreuses années, congeler les spermatozoïdes. On sait aussi congeler les embryons, c'est-à-dire l'œuf féminin fécondé, mais on ne savait pas préserver, conserver la cellule féminine, l'ovocyte. Et depuis quelques années, c'est possible. Et ça, c'est une authentique révolution. Quand j'ai découvert cette méthode, j'ai été enthousiaste et j'ai milité à ma façon qu'on informe déjà sur la méthode et qu'elle soit possible en France. Et on voit maintenant que les choses n'avancent pas. Alors, les professionnels se sont prononcés. Effectivement, le Collège des gynécobstétriciens s'est prononcé clairement en étant favorable à cette méthode. Il faut dire que jusque-là, elle était possible pour des raisons médicales. Si une femme devait avoir un traitement d'un cancer qu'elle allait mettre en danger sa stérilité, c'était admis. Et puis, il y avait un deuxième sujet qui peut être intéressant, c'est qu'on faisait une exception, on disait, si une femme accepte de donner, parce que c'est un problème grave en France, il y a une pénurie majeure d'ovocytes, pour une raison qu'on pourra reprendre, si une femme accepte de donner, eh bien, elle gardera pour elle, pour l'avenir, quelques ovocytes.
Voilà. Si elle n'a pas d'enfant.
Voilà.
Donc
c'est,
on a une situation effectivement
une situation assez marginale.
Un petit peu floue et pas, enfin disons pas très très claire. Hélène Périvier, Michel Tournard vient de dire, bah, il faudrait d'abord informer sur cette question. Effectivement, les professionnels comme Michel Tournard la connaissent bien. Est-ce qu'il fallait pas finalement attendre que ce soit des grandes entreprises qui en parlent pour que ça devienne un débat de société? Et finalement, est-ce que c'est pas une bonne chose que Apple et Facebook en aient parlé? Ainsi, le reste de la société peut s'en saisir un petit peu.
Alors, je pense que là, c'est important de savoir qui porte ce sujet et qui le met sur la table. S'agissant du législateur, la question complexe de le lien à la maternité, quand peut-on, doit-on, quand est-ce possible de pouvoir avoir un enfant, c'est clairement une question politique. Quand Apple et Facebook mettent ce sujet-là sur la table, on passe sur une question économique. Et là, je pense qu'on a un glissement qui peut être potentiellement dangereux. Cette technique qui peut devenir un véritable outil d'émancipation des femmes relativement à la maîtrise de leur corps peut aussi devenir une injonction du marché relative à quand est-ce qu'on suppose, quand est-ce que les DRH, quand est-ce que l'entreprise et l'employeur estiment qu'il est le bon moment pour ces femmes d'avoir un enfant. Et là, il y a un glissement tout à fait intéressant et je pense que prendre le contexte américain et le contexte français peut expliquer aussi qu'on n'ait pas les mêmes termes du débat. Clairement, aux États-Unis, la politique de santé est en partie dirigée, en tout cas façonnée par les employeurs, puisqu'une partie de, en tout cas, de son financement passe par les employeurs, alors qu'en France, on est sur une politique de santé qui passe par du politique, décidons ensemble qu'est-ce qui est remboursé, qu'est-ce qui est pris en charge, comment, dans quelles conditions, qu'est-ce qui est autorisé. Et là, on voit qu'il y a un glissement assez intéressant dans l'articulation qu'il y a entre le marché, l'État et la famille au sens très large du terme, c'est-à-dire l'accès à la parentalité.
Céline Oyo.
Mais vous dites que c'est un débat politique, mais il n'a pas eu lieu. Cette question, dans quel cadre elle pourrait être débattue autre que par les voies économiques ?
Alors, ce n'est pas un débat politique aux États-Unis. Il est présenté comme ces femmes ne peuvent pas accéder aux responsabilités parce que, mais quand elles sont trop jeunes, c'est trop tôt parce qu'il faut faire des études et que les études ne sont pas aménagées pour permettre aux jeunes femmes d'avoir des enfants. Ensuite, eh bien, il faut mener des carrières comme ces carrières ont été construites et valorisées sur le modèle d'un homme qui va travailler et qui aura une femme avec des enfants qui ne travaillera pas. Je caricature un peu, mais ça montre pourquoi ces carrières sont façonnées comme ça. Eh bien, en disant aux femmes, vous aurez vos enfants à 45, 50 ans quand votre carrière sera faite, on demande aux femmes de devenir des hommes parce qu'on s'interdit de penser la construction des carrières, la valorisation des parcours, la possibilité pour des individus de faire des stops, de revenir, parce que ces questions-là sont très sexuées, ce sont les femmes qui s'arrêtent et de fait, elles sont pénalisées. Mais là, on ne produit pas de l'égalité dans le cas d'Apple et Facebook. Au contraire, on conduit à une injonction aux femmes à avoir des parcours comme ceux des hommes et donc on s'interdit de repenser une organisation économique et sociale qui permette de porter l'égalité.
Derrière la réticence de la société à ouvrir le débat sur la congélation donc dite de convenance et qu'il n'y a pas aussi l'idée que les femmes pourraient le revendiquer pour des raisons qui seraient peut-être des mauvaises raisons. Est-ce qu'on pourrait reprocher aux femmes d'être inconscientes, voire capricieuses? Est-ce que c'est pas un peu ce sous-entendu qui fait que le débat est un petit peu bloqué, Laurence Brunet?
Oui, je pense qu'il y a cette idée que les femmes feraient mauvais usage de l'autoconservation. Et on retrouve cette crainte, justement, d'une utilisation un peu frivole de l'autoconservation dans la manière dont l'agence de la biomédecine, qui a été sollicitée pour mettre en application cette fameuse disposition dont je vous parlais tout à l'heure, la possibilité de faire des dons en contrepartie d'une autoconservation quand on n'a pas d'enfant. Et justement, le mot qui revient et qui conduit l'agence de la biomédecine à émettre des réticences, c'est l'idée de la convenance. C'est l'idée que les femmes pourraient finalement décider, quand bon leur chante, d'avoir des enfants et que cette idée de la convenance serait quelque chose d'extrêmement négatif, comme si elle profitait de cette émancipation.
Oui, par exemple, si une femme dit, bah, moi je veux d'abord voyager. Par exemple, si une femme dit, je ne veux pas que mon corps se déforme, je veux profiter d'un corps qui a l'aspect d'un corps de 25 ans, au moins jusqu'à 35. Par exemple, hein, ce genre de raison. Et est-ce qu'on n'a pas peur que les femmes invoquent ce genre de raison, Michel Tournaire.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce débat me ramène extrêmement longtemps en arrière, parce que des arguments de ce genre ont été employés contre la pilule. Le débat était virulent. Et il faut dire qu'il l'est en France, tout à fait virulent aussi. Je suis effaré par cette réaction négative. Alors qu'est-ce que c'est? Les femmes qu'on pousse à faire des études travaillent quelques années, elles se retrouvent à 30 ans et quelques, et puis elles vivent quelques années avec un homme qui s'avère être finalement non candidat à la paternité, et elles arrivent très vite à une période de fertilité diminuée. Autrement dit, elles ont 10 ans pour faire leur enfant, dans une vie de 85 ans maintenant. Ce qui est proposé là, c'est de proposer avec son propre patrimoine génétique, ce qui est très intéressant. Donc il n'y a pas de grand sujet d'éthique derrière ça. On leur propose d'avoir un espace de liberté supplémentaire et, comme pour la pilule, de faire des enfants quand les conditions sont réunies. Alors les conditions réunies, on a tendance à dire que c'est la carrière qui empêche les femmes de faire l'enfant. Quand on se penche sur le sujet, ce n'est pas vrai. C'est le manque de candidats à la paternité. Voilà le premier problème. Et on peut comprendre qu'une femme préfère avoir un enfant avec un conjoint. Donc c'est un espace de liberté qui s'ouvre et qui déclenche beaucoup de réactions.
Céline Oyot.
Il n'y a pas des risques pour la santé et de la mère et de l'enfant ?
Alors ça, c'est évidemment la question de fond. Ça, c'est mon domaine. Et je me suis vraiment beaucoup penché sur ce sujet-là parce que même chez les médecins, parfois, il y a une réticence. Alors qu'est-ce que c'est qu'une grossesse après 40 ans ? C'est ce que j'ai expliqué aux candidates à la maternité. Elles venaient souvent parce qu'elles s'intéressent au sujet, elles venaient se renseigner. Je disais, ben voilà, il y a une première partie de la grossesse, le premier trimestre, qui est un trimestre un petit peu d'observation dans lequel on sait qu'il y a des fausses couches inévitables et elles augmentent beaucoup avec l'âge. À 45 ans, c'est 50%. Et à 40 ans, c'est un tiers des grossesses qui s'interrompent.
Michel Tournaire, les grossesses à risque ne sont pas tant à risque que ce qu'on imagine,
voilà,
c'est ça que vous voulez dire ?
Pour faire court, ouais. Absolument. Ouais. Si on a passé ce cap de début, le dépistage de trisomie, si on est d'accord éthiquement pour l'avoir aussi, on a résolu les grandes différences de ces grossesses. En revanche, après, il y a un peu plus fréquemment des questions de diabète, des questions d'hypertension, un peu plus de prématurité, mais pas beaucoup plus. Autrement dit, ces grossesses ne sont pas à haut risque,
d'accord.
Sauf... Et une exception, c'est s'il y a des jumeaux.
D'accord. Bon, en tout cas, à vous entendre, on comprend qu'une grossesse permettre de congeler les ovocytes pour les réutiliser plus tard, ce serait finalement rétablir une sorte d'égalité entre
tout
les hommes et les femmes face à la fertilité.
Oui.
On pourrait imaginer, Hélène Périvier, qu'au contraire, ce soit la société qui se réorganise en fonction du temps de grossesse des femmes et pas l'inverse. Donc, par exemple, en forçant les entreprises à se réadapter, à faire des crèches, du télétravail, etc. Est-ce que c'est imaginable, ça ?
Ouais, je pense que là, il y a un débat. Enfin, il faut bien dissocier plusieurs choses. Ce qui a été dit est tout à fait exact. Ces nouvelles possibilités de maternité sont un outil d'émancipation des femmes sous certaines conditions. Je pense que c'est important de le dire. Bien sûr que dans les déterminants qui font qu'une femme souhaite avoir un enfant plus tardivement, vous le dites, il y a la possibilité de rencontrer un conjoint qui a lui aussi un désir de paternité. C'est vrai, mais ces questions-là sont aussi guidées par l'organisation des carrières. On ne peut pas simplement dire la question de la carrière est juste anecdotique dans le choix et le timing de la formation de la famille. Ça n'est pas le seul guide, mais ça en fait partie. Et je pense que dans ce débat-là, il faut vraiment... C'est pourquoi je parlais de politique au début. C'est vraiment une question politique. Il faut la mettre sur ce champ-là. C'est quoi les droits fondamentaux ? C'est quoi les droits des femmes ? C'est quoi l'émancipation des femmes ? Et surtout pas le placer sur le champ du domaine économique. Puisque les carrières sont comme ça, puisque les individus s'organisent comme ça, alors proposons des solutions pour que le corps des femmes s'y adapte. Ça ne peut être un outil d'émancipation que si c'est vraiment une liberté qu'ont les femmes de l'utiliser quand elles veulent, comme elles le veulent. Exactement comme l'avortement, parce qu'on a parlé de réticence tout à l'heure, c'est un droit fondamental des femmes et pendant longtemps, lui aussi, il a été sujet à convenance, avec des aspects tout à fait moralisateurs qui sont, à mon sens, extrêmement dommageables au débat sur ces questions.
Est-ce que le fait d'autoriser la congélation des ovocytes pour les femmes pour raison de convenance, ça s'inscrirait dans la continuité du combat pour l'émancipation des femmes, donc au même titre que la procréation au même titre que l'IVG, Laurence Brunet ?
Oui, à la condition que les femmes soient bien informées de ce qui se passe, hein, à la fois des risques et du moment surtout dans lequel il faut le faire. Parce que, c'est, comme l'a dit Madame Périvier, c'est non seulement il faut que ce soit une vraie liberté, mais pour que ce soit une vraie liberté, il faut être vraiment informé. Or, le problème de cette technique, en fait, des avantages de cette technique, c'est que pour en bénéficier, il faut le faire très tôt. C'est-à-dire qu'il faut le faire à un moment où on n'a pas forcément encore pensé, les femmes n'ont pas encore pensé qu'elles auraient envie d'avoir des enfants. enfants. Elles ne se sont pas projetées. Effectivement, elles n'ont pas fini leur carrière ou elles n'ont pas fini leurs études. Et donc, le problème, c'est que pour que ça soit efficace, il faut le faire avant 30 ans. Et donc, pour le faire avant 30 ans, il faut être très bien informé. Il faut qu'il y ait une diffusion dans la société. Donc, il ne faut pas simplement changer les conditions de, comment dire, la pression économique. Il faut aussi informer les femmes. Et c'est très important parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les femmes qui vont faire des PMA lorsqu'elles ont passé 39, 40, 41 ans, elles ne sont pas conscientes que justement leur horloge biologique a vraiment fortement chuté et que la technique ne va pas tout leur permettre. Donc si on ne veut pas retomber dans ce genre de piège, il faut vraiment que les femmes soient informées très tôt, peut-être à un âge où elles ne veulent pas entendre.
France Culture, du grain à moudre.
Mélanie Chalandon.
Maternité tardive, comment dégeler le débat? C'est notre sujet de ce soir et on en débat jusqu'à 19h avec Laurence Brunet, juriste, Hélène Périvier, économiste et Michel Tournaire, gynécologue obstétricien. Puisqu'on est sur la question du terrain des égalités entre les hommes et les femmes, il y a une inégalité dont on n'a pas parlé, c'est le fait qu'aujourd'hui en France, la congélation du sperme est possible. Alors comment ça se fait, Michel Tournaire?
Une raison technique, c'est qu'elle est possible depuis fort longtemps, et puis que la congélation des ovocytes ne l'est que depuis une dizaine d'années, et en pratique courante depuis 5 ans.
Donc c'est une raison technique, cette inégalité, elle est due à
une raison technique. Et partant des raisons techniques, maintenant il faut se poser les questions de l'application. Et là, il faut bien dire que nous ne prenons pas le chemin de très nombreux pays. Tous les pays qui nous entourent ont légalisé cette méthode, elle est déjà très employée. Alors quelle est la situation maintenant? Moi, j'ai été entendu par le comité d'éthique il y a 2 ans, qui est censé donner un avis. Rien ne se passe. Il ne donne pas son avis. Sur le plan de la législation, même la loi de bioéthique de 2011 n'a pas de décret d'application. C'est-à-dire que cette possibilité de donner des ovocytes et d'en garder pour soi n'est pas applicable. Alors que font les femmes? Il faut bien dire que tout ça, ce sont des idées très théoriques. Pour une raison simple, c'est que puisque cette méthode est en place dans beaucoup de pays autour de nous, eh bien les femmes disposent de cette méthode-là, celles qui sont informées.
Et c'est là qu'on voit des migrations, notamment en Espagne, de jeunes françaises qui vont faire congeler leurs ovocytes en Espagne.
Et si vous tapez dans votre ordinateur, vous savez tout de suite que vous êtes invité à venir pour 3000 euros et mettre de côté des ovocytes. Donc là, on parle dans le vide, carrément, puisque les choses sont en place. Mais curieusement, il y a encore peu de demandes des Françaises, parce qu'elles sont peu informées de cette méthode. C'est ce que nous faisons un peu aujourd'hui.
Dans la continuité de ce que vous dites, Michel Tournaire, imaginons que demain, le législateur français autorise donc, comme en Espagne, comme en Belgique, comme en Italie, la légalisation des ovocytes. Est-ce que ça bouleverserait notre vision de la maternité, Hélène Périvier?
Je ne sais pas si ça bouleverserait, mais ce qui est très intéressant dans ce qui a été dit, c'est que cette dissonance qu'il y a entre les différences entre pays crée aussi une inégalité dans l'accès à ce droit. Si on considère que c'est un droit, et ça, je pense que c'est le fond du débat, il est là, mettons-nous d'accord, c'est un droit. Si c'est un droit fondamental des femmes à disposer de leur corps, c'est un droit fondamental des femmes à disposer de leur corps, alors il faut que ce soit pris en charge, que toutes les femmes, y compris les femmes qui sont dans des situations économiques défavorables, puissent y accéder. Il n'y a aucune raison qu'une femme cadre supérieure qui a les moyens puisse aller en Espagne 3000 euros pour congeler ses ovocytes. Donc si on veut revenir sur le champ d'un droit fondamental, il faut que ce soit autorisé et permis, effectivement permis, y compris économiquement, pour toutes. Et donc c'est là où on a à se mettre d'accord collectivement, comment organiser ce droit et comment le financer.
Une question de Céline Oyot du journal La Croix.
Mais c'est-à-dire qu'il faut que la sécurité sociale rembourse ses frais. Est-ce que ça ne va pas créer de toute façon des inégalités économiques entre des femmes qui peuvent se le permettre et d'autres non? Ou est-ce qu'il faut que ce soit les entreprises qui assument ces coûts?
Alors c'est précisément pour ça que je précise, c'est dans le champ du politique. Si on considère que c'est un droit, ça doit bien évidemment être pris en charge collectivement. Parce que là, on va créer une possibilité d'accès à la maternité à 2 vitesses, avec des femmes qui ont les moyens, celles qui n'en ont pas. Et ce n'est pas ces termes du débat aux États-Unis. C'est là où cette démarche d'Apple et Facebook est révélatrice d'une société, en tout cas aux États-Unis, qui ne fonctionne pas sur ce mode-là. Ce n'est pas un droit fondamental, c'est l'idée que ça peut être quelque chose pour certaines femmes dans certaines conditions. Et c'est là où je pense qu'il faut le remettre sur le champ beaucoup plus globale d'un droit des femmes à disposer de leur corps, et donc le permettre, et permettre l'accès à toutes les femmes. Et donc ça veut dire qu'il faut bien sûr ensuite avoir un remboursement de la sécurité sociale, comme c'est le cas pour l'avortement. Et je précise que déjà les conditions d'accès à l'avortement sont déjà pas totalement effectives sur l'ensemble du territoire. Donc je pense que cette réflexion-là, elle doit être menée sur ce champ-là.
Michel Tournaire, si on va au bout de la logique, après la congélation des ovocytes, donc pour augmenter la durée de l'horloge biologique des femmes, est-ce qu'il ne faudra pas réfléchir à l'utérus artificiel et à la gestation pour autrui ?
Ça existe. L'utérus artificiel a donné déjà une grossesse en Suède il y a quelque temps. Mais ce sont des techniques très lourdes et qui sont loin d'avoir un effet quelconque dans les libertés des femmes. Ce sont des situations à part pour des femmes à qui on a enlevé l'utérus ou qui n'en avaient pas en naissance, qui existent. Je crois qu'on ne peut pas raisonner sur des cas extrêmement marginaux.
Non, mais disons plutôt sur le principe, c'est-à-dire, voilà, si on se dit, bon, c'est à la société de faire en sorte que les femmes soient plus les égales des hommes, et donc on sort un petit peu de l'horloge biologique, à part la congélation des ovocytes, il faudra aussi se poser la question de la technique.
La question de l'argent en France est toujours...
Pour vous, c'est un argument
d'abord
donné, une question d'argent.
Éventuellement contre les méthodes de PMA, etc. Quelle est la situation actuelle ? Il y a une injustice qui est au niveau de l'argent, puisque les femmes qui veulent avoir recours à cette méthode vont à l'étranger. Et qu'à l'étranger, ça demande un peu plus de connaissances, de moyens, certes, mais aussi de capacité de s'adapter. Donc c'est très injuste.
C'est pour ça que je demandais la question, logique ne veut pas qu'on ouvre la question en France.
Mais oui, il faut l'ouvrir. Décider qu'a priori, on doit absolument rembourser, c'est une question qui est ouverte. Il faut bien voir que dans ce cas-là, ce serait quand même une option personnelle des femmes. Et que certes, ce sont des sommes pas négligeables, 3000 euros. On peut penser que dans une vie, beaucoup de femmes sont capables de dépenser pour d'autres sujets, parfois futiles. Ou pas.
Mais Hélène Périvier,
donc je ne vois pas pourquoi, enfin, on déciderait que dans ce pays, tout n'est pas obligatoirement pris totalement en charge par la société, mais quand on a une option personnelle, comme c'est le cas, on pourrait aussi se prendre en charge.
Hélène Périvier, sur cette question de l'utérus artificiel, de la gestation pour autrui, est-ce que vous le voyez comme une logique de principe dans ce débat ?
Il faut quand même bien voir que dans les droits des femmes, et en particulier l'égalité entre les femmes et les hommes, il n'y a pas que la question de l'accès à la maternité. Là, on a beaucoup parlé de l'accès à à être parent, la possibilité de procréer. Mais une fois que l'enfant est là, qu'il soit né dans un utérus artificiel ou par une GPA, il y a une division sexuelle du travail qui se met en place, qui fait que de toute façon, ce qu'on retrouve, c'est que c'est la femme qui va s'en occuper essentiellement et qu'une partie des inégalités socio-économiques entre les femmes et les hommes viennent de là. Ce n'est pas les 9 mois de grossesse uniquement qui font qu'on se retrouve avec des inégalités professionnelles telles qu'on les observe. C'est toute l'organisation économique et sociale qui se met en place et qui font que les femmes vont être renvoyées davantage aux tâches familiales et domestiques et que les hommes vont continuer à s'investir. On montre même que quand ils ont des enfants, les hommes s'investissent encore plus dans leur vie professionnelle. Donc on voit bien que cette question-là est une question extrêmement intéressante, mais ce n'est pas celle qui va résoudre la question des inégalités socio-économiques entre les hommes et les femmes. Donc il y a de toute façon une réflexion beaucoup plus large à avoir en matière de notre organisation sociale pour porter l'égalité. Et ensuite, ce dont on a discuté avant, c'était... Est-ce que ça produit de l'égalité de permettre à des femmes d'avoir des enfants à 45 ans alors que les hommes le peuvent ? C'est, pour le dire simplement, c'est un peu ça la question. Donc je dis, le débat doit s'ouvrir, je suis assez d'accord. Sous quelles conditions ? Eh bien, ouvrons-le. Si c'est un droit fondamental, alors il doit être accessible à tous. Si ça n'est pas un droit fondamental, alors rediscutons-en. En tout état de cause, je pense que ça n'est pas dans le champ économique, c'est-à-dire ce n'est pas aux entreprises à décider si ou pas on le finance et comment on le finance. Parce que là, je pense qu'on est sur une pente extrêmement dangereuse où, de fait, on va avoir une injonction aux femmes qui va être « n'ayez pas d'enfants à cet âge-là ». Vous avez la possibilité de congeler vos ovocytes. Si vous ne le faites pas, c'est que vous n'êtes pas investi dans votre carrière. De fait, vous n'aurez pas votre promotion.
Concrètement, vous voulez dire que le risque, c'est qu'une jeune femme aille voir son employeur pour dire « voilà, j'ai un projet de grossesse, je voudrais m'arrêter » et que l'employeur lui dise « écoutez, madame, c'est dommage, c'est pas le moment, mais puisque la technique de la congélation des ovocytes existe, eh bien, pourquoi vous n'en profiteriez pas? Et puis peut-être même, on pourrait vous donner une petite prime, un petit coup de pouce financier pour... Voilà, c'est ça le risque.
Oui, ça peut être ça.
C'est ce genre de dialogue qu'on pourrait
exactement,
imaginer.
Ou ça peut être en forme de signal. C'est-à-dire qu'on l'offre la possibilité. Celles qui ne l'utilisent pas seront très clairement reconnues comme étant des femmes qui ont envie d'avoir des enfants, s'investir dans la famille et pas dans leur carrière. Et donc, voilà, on est vraiment sur le thème faire des femmes, des travailleurs, hommes, comme les autres. Or, ben, précisément, il y a quand même des différences.
Laurence Brunet, sur cette question.
Moi, il me semble que sur la question de l'aspect financier, je ne suis pas sûre qu'il faille absolument dire que si on l'ouvre, ça doit totalement être pris en charge. Je pense que déjà, il faut discuter de savoir si le fait de l'ouvrir, de rendre la chose possible, n'entraîne pas nécessairement sa prise en charge par la Sécurité sociale. En France, on a l'habitude que tout soit, en matière de santé, totalement pris en charge à 100%. Quand on regarde dans d'autres pays où la liberté d'accès à ces techniques est quand même très large, il y a souvent un partage entre ce qui revient aux individus dans leur choix procréatif et ce qui est pris en charge par la Sécurité sociale.
Même en France pour l'IVG, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est totalement... En France, tout est absolument...
La date, en 1975, autorisation de l'IVG, et remboursement seulement en 1982.
Voilà. Oui, non mais d'accord, il peut y avoir un décalage. Bien sûr. Mais je veux dire, on ne doit pas nécessairement lier la question de l'accès à la question, à mon avis, de la prise en charge. Parce que sinon, on n'arrive pas à réfléchir parce qu'on est tout de suite embolisé par la question du prix que ça va coûter. Donc peut-être qu'on pourrait justement laisser une part de cette charge aux individus, comme c'est le cas dans d'autres pays en matière très largement d'accès à certains soins qui ne sont pas peut-être aussi importants. Moi, il me semble que ce qui est... Pour revenir aux questions pratico-pratiques, je ne suis pas sûre que la question de la pression économique soit la plus importante. Moi, il me semble que si on voulait le mettre en œuvre, il faudrait peut-être permettre aux femmes, et ça, le prendre en charge, faire un bilan de fertilité à un moment donné. Ça serait peut-être utile d'offrir aux femmes la possibilité de choisir. Et effectivement, ça suppose quand même de se renseigner un peu de manière concrète sur la réserve ovarienne. Alors peut-être que ça pourrait être... les gynécologues pourraient le mettre en place. Peut-être que ce type de tests pourraient être effectivement favorisés par les pouvoirs publics. Ensuite, le choix de la prise en charge reste ouvert. Et ce qu'il faut, c'est que les femmes puissent, à un moment donné, être totalement informées et de manière précise.
Michel Tournaire, aujourd'hui, les femmes, elles savent ne serait-ce ce que c'est que la congélation des ovocytes. Donc le fait de pouvoir, je rappelle, mettre de côté ces cellules reproductives, les congeler et les réutiliser plus tard pour avoir des chances de fertilité égales à 40 et à 25.
Je crois que le fait d'être ici amène à se poser la question de l'information, évidemment. Et il y a quelques informations que j'aimerais donner à l'occasion. Première, c'est que la fertilité diminue surtout à partir de 35 ans. Donc ça va vite. Et que les chances de grossesse à partir de 40 ans sont très basses. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième, il n'est pas question de pousser, grâce à une méthode qui n'est même pas en place en France, les femmes à attendre en disant « ça y est, c'est résolu maintenant et on aura notre enfant quand on voudra ». Non, le vieux concept d'une grossesse « quand je veux » n'était pas vrai et il ne l'est toujours pas. Donc il faut bien comprendre qu'il n'est pas question d'inciter les femmes à attendre. Mais si les conditions de leur vie ont fait qu'elles se réveillent tard, et si elles ont pensé quand elles arrivaient... Alors c'est vrai que l'âge idéal, c'est avant 35 ans. Mais aux États-Unis, on a remarqué que la plupart des femmes mettaient en congélation, si on peut dire, leurs ovocytes, plutôt en moyenne à 38 ans. Comme l'information est passée là-bas, elles avancent un peu cet âge-là, ce qui est important parce qu'à 38 ans, les chances de succès après ne sont pas très bonnes. En dessous de 35 ans, ce qui est assez extraordinaire d'ailleurs, c'est que la fécondation in vitro qui sera faite quelques années après fonctionne exactement comme elle aurait fonctionné à l'âge du prélèvement. Donc le temps s'arrête en quelque sorte. Et à tout point de vue, y compris pour les risques par exemple de trisomie 21, qui reste celui de la date de prélèvement. Donc là, on a un outil de liberté assez extraordinaire, mais surtout, on ne va pas pousser les femmes à attendre pour faire leur enfant.
Une question de Céline Hoyot.
Oui, je me disais, au fond, la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce que ça ne remet pas en question la manière dont on perçoit la maternité? En fait, je me demandais s'il ne faudrait pas plutôt se poser la question de savoir pourquoi, au fond, les femmes reculent l'âge de la maternité. Vous disiez qu'en fait, celles qui ont un enfant tard sont mal perçues. Moi, j'ai l'impression que c'est celles qui ont un enfant assez tôt qui sont mal perçues dans la société. Donc,
alors,
Michel Tournaire.
Ça, c'est une remarque qui me ramène à une information que j'ai obtenue de la part des Suédois. Parce qu'on dit en France qu'on n'a pas d'informations sur le devenir des enfants pour les grossesses tardives. Donc je me suis préoccupé de ce sujet. Il y a ce livre d'une part, et puis des études de ce sociologue suédois et qui a fait une courbe tout à fait intéressante. Le critère, c'est quel est le succès scolaire et l'importance de l'éducation pour les enfants. C'est un des bons paramètres pour les sociologues. Et on se rend compte qu'il y a une courbe qui part de très bas, une grossesse autour de 20 ans, qui monte. À 30 ans, elle arrive à un certain plateau et elle continue de monter après. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on regarde les grossesses tardives, eh bien, elles sont le pronostic pour les enfants est de mieux en mieux. Parce que ce sont plus souvent des couples, des grossesses désirées, des conditions socio-économiques meilleures.
Donc il y aura aussi des vertus avait, on l'oublie. À la grossesse
mais,
tardive.
Mais on se rend compte maintenant que le drame, ben c'est au début. Ce sont des femmes qui ne sont pas insérées dans la vie, qui sont souvent seules, et que c'est là qu'il faut se pencher.
Mais là, il y a un biais de sélection très fort. C'est-à-dire que les femmes, précisément les femmes qui ont des enfants tardifs, sont précisément des femmes très éduquées parce qu'elles ont fait des études longues, qui ont probablement une carrière intellectuelle et professionnelle riche. C'est ça qui produit, c'est cette condition-là qui produit la réussite scolaire des enfants. Précisément celles qui ont des enfants tôt sont celles qui ont des conditions d'accès à l'éducation moins favorables. Et donc, de fait, vous êtes dans un
mécanisme.
Tout à fait.
Mécanisme. Et alors, il y a deux sortes de grossesses tardives. Il y a les anciennes et les modernes. Les anciennes, si on regarde en 1950, 35 000 grossesses au-delà de 40 ans. En 1985, 7 000.
Donc là, c'est plus pour des raisons
grossesses
traditionnelles, de contraception.
C'est-à-dire dans des conditions socio-économiques pas très bonnes, pas de contraception, et qui expliquaient qu'effectivement, ces grossesses se passaient mal. Et puis, elles sont remontées. On est de nouveau au-delà de 35 000. Ça, c'est extraordinaire, cette courbe. Mais avec des nouvelles grossesses tardives et avec le profil... Alors, les deux cohabitent un peu, mais l'immense majorité maintenant... et dans des conditions favorables, et il reste bien sûr certaines qui sont dans des conditions d'autrefois. Mais le préjugé est resté sur l'autrefois, et les choses ont vraiment bien évolué maintenant.
La question qui se pose, c'est est-ce qu'il est possible d'être une femme éduquée avec une belle carrière en ayant un enfant à 30 ans ou à 35 ans, si on le souhaite? Ce que vous soulevez là, ça soulève aussi cette question-là. Est-ce qu'il est possible que nous construisions une société dans laquelle on puisse être éduqué, avoir une carrière professionnelle satisfaisante, en faisant le choix, je ne suis pas en train de dire qu'on doit interdire le choix d'avoir un enfant à 40 ans, mais on doit aussi permettre à ces femmes-là d'avoir un enfant à 35,
oui,
si elles le désirent.
Oui, mais Laurence Brunet, une réaction de Laurence Brunet.
Si on attend effectivement que la société ait totalement changé pour permettre à ces femmes d'avoir à la fois une carrière et un enfant, on va attendre un certain nombre d'années, peut-être que ça ne verra jamais. Donc en attendant, effectivement, je souscris complètement à ce que vous dites, mais en attendant, est-ce que cette technique doit être bannie, si elle est possible, à moindre frais, qu'elle peut marcher, qu'on est bien informé? Est-ce qu'en attendant qu'effectivement la société se rende compte qu'il y a une véritable inégalité et que les femmes, on leur demande de devenir des hommes pour effectivement être beaucoup plus performantes, comme vous l'avez dit, est-ce que là, maintenant, aujourd'hui, on laisse les femmes partir à l'étranger? Ou est-ce que nous, on ouvre au moins le débat et ensuite on essaie de trouver une solution? Voilà, parce que je suis bien d'accord, il faudrait tenir les deux. C'est-à-dire à la fois que le symptôme, il ne faudrait pas que la solution masque la cause du problème.
Michel Dornay, on arrive à la fin de cette émission. Je voudrais vous demander à tous les trois, imaginons que demain on autorise la congélation des ovocytes en France. Est-ce que quelque part, ce serait ce qu'on appelle peut-être sortir les femmes de l'état de nature, cette notion de sortir de l'état de nature? Est-ce qu'on en arriverait là? Je voulais notamment votre point de vue, Laurence Brunet, en tant que juriste.
Alors, est-ce qu'on sortirait les femmes de l'état de nature un petit peu plus, sans doute, parce qu'on leur permettrait de décaler de quelques années quand même la grossesse. Il ne faut pas non plus exagérer, hein, parce que si ces femmes font autour de entre 30 et 35 ans, en gros, puisqu'aujourd'hui avoir une grossesse au-delà de 45-48 ans, c'est dangereux. Donc on ne va quand même pas énormément étendre. Et moi, ce que je voudrais dire quand même pour venir là-dessus, c'est que ça serait bien que les hommes réfléchissent à cette question, parce que si les femmes sont obligées de sortir alors de l'horloge, de biologique, de leurs conditions de nature, ça serait bien que les hommes réfléchissent à cette question aussi avec les femmes, puisque ce que nous disent les études qui ont déjà été publié à l'étranger sur ces questions-là, c'est que le principal problème, c'est que les hommes ne veulent pas s'engager non plus trop tôt. Ce n'est pas simplement la pression économique, c'est aussi l'évolution de notre société qui fait que les hommes ont peut-être le sentiment d'avoir beaucoup plus le temps d'avoir des enfants que les femmes. Et donc, c'est aussi une réflexion. Je voudrais que sur la maternité, il n'y ait pas que les femmes qui réfléchissent, mais que les hommes aussi réfléchissent à cette question-là.
Michel Tournaire.
Alors, je dirais que le créateur a prévu que les grossesses deviennent rares après 40 ans. C'était bien adapté pendant des millénaires. Et il faut rappeler qu'en 1912, l'espérance de vie d'une femme était de 50 ans. Elles ont gagné depuis 35 ans de vie, dont 25 ans de vie correcte. Et ce que je voudrais demander, et ce que propose maintenant l'évolution là, c'est qu'on demande au créateur d'ajouter une petite appli, comme on dit maintenant, pour permettre d'élargir un petit peu et ça ne sera pas préjudiciable aux femmes d'avoir un enfant et de pouvoir le conduire jusqu'à l'âge de 30 ans, 35 ans. Ce n'est pas une grande lâcheté que d'abandonner son enfant à cet âge-là.
Hélène Périvier, vous avez quelques secondes pour réagir à votre tour.
Pour dire que le débat nature-culture, pour moi, je vais être très frécienne, Geneviève Fraisse, je dirais, n'est pas celui qui compte. Celui qui compte, c'est celui de l'égalité. L'égalité entre les femmes et les hommes et les conditions de réalisation de soi.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Donc, je rappelle Laurence Brunet, juriste, Hélène Périvier, économiste à l'OFCE. Je rappelle votre ouvrage, Le deuxième âge de l'émancipation, la société, les femmes et l'emploi, La République des idées 2007. Et Michel Tourner, gynécologue obstétricien. Je rappelle votre ouvrage, Le bonheur d'être mère, la grossesse après 35 ans, chez Odile Jacob en 2005. Je remercie également Céline Oyo d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que dans le dossier des pages Opinion Débat de La Croix de demain, vendredi 26 décembre, on retrouve votre dossier sur l'éloge de la maternité. Pour le Grain à Moudre, on se retrouve lundi 29 en direct. En attendant, il est 19h sur France Culture. C'est l'heure du rendez-vous de Laurent Goumard.